vos souhaits aux miens pour leur souhaiter un joyeux anniversaire, même en retard. Que Dieu les bénisse grandement. Donc, sur ce, on va prier et on va débuter notre temps d'enseignement pour ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous donnes encore de nous rassembler, même à distance, de prendre ce temps de pause dans nos activités de ce matin, afin de plonger nos regards dans ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, de toi. Nous avons besoin, Seigneur, d'entendre ta voix. Nous avons besoin, Seigneur, de recevoir instruction et nourriture spirituelle de ta part. Donc, merci, Seigneur, pour cette occasion que tu nous donnes encore de plonger nos regards dans ta parole et d'être rassasiés et abreuvés par elle. Ce matin, j'appelle ta bénédiction sur mes frères et sur mes sœurs et que tu puisses, Seigneur, nous visiter, que ta présence soit palpable et que tu puisses faire entendre ta voix parmi nous. Merci pour tout ce que tu as préparé et tout ce que tu déverses sur nous aujourd'hui. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Donc, en fin de séance, on saluera tous ceux qui se joignent à nous. D'ici là, on va tout simplement débuter la lecture de la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 58. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 58, qui nous dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Je répète, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Alors, on a vu déjà la notion de frères bien-aimés, comment on devait être unis pour travailler ensemble, comment le Seigneur nous appelait à vivre dans l'unité, non seulement pour le bien-être au sein du corps de Christ, mais aussi pour l'exemple et pour l'attrait que ça revêt auprès de ceux qui nous regardent de l'extérieur. Mardi, on a vu ce qui voulait dire être ferme, donc asseoir notre base, travailler sur le fondement de notre foi, être bien enraciné dans la personne, dans la présence, dans la parole de notre Seigneur. Hier, on a vu comment être solide, comment être inébranlable, comment ne pas être sujet aux différentes influences qui peuvent souffler sur nous durant notre vie, que ce soit des choses très passagères, que ce soit des modes, que ce soit des saisons, ou que ce soit même l'effet du temps sur nous, mais qu'on soit comme cet arbre dont nous parle le psaume premier, où on nous dit qu'un arbre qui est planté, un être humain ou un homme qui se confie en l'Éternel est représenté par un arbre planté près d'un courant d'eau qui étend ses racines et qui reste vert et qui porte du fruit en toute saison, même durant la saison sèche. Et aujourd'hui, donc, travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travailler de mieux en mieux, c'est le terme grec periseuo, donc P-E-R-I-S-S-E-U-O, je répète, P-E-R-I-S-S-E-U-O. Et avant que je n'explique pleinement ce que veut dire ce terme grec, j'aimerais simplement dire que en français, dans la version en français, il y a comme un ajout et une absence dans cette section de versets qui sont quand même un peu particulières. En partant, le terme « travailler » n'existe pas dans la version hébraïque. Lorsqu'on regarde le texte hébraïque, le mot « travailler » en soi n'est pas là, ou du moins, il n'est pas là dans cette forme-là. En fait, si on devait reprendre la version hébraïque et qu'on la traduisait de façon littérale, donc mot à mot, on aurait une traduction qui dirait quelque chose comme « toujours de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur ». Ça serait ça le verset. « Toujours de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur ». Et c'est quand même une particularité que, en français, on ait senti le besoin de rajouter le terme « travailler », alors que dans la pensée hébraïque, dans la pensée du texte hébreu, le travail est sous-entendu. On sous-entend qu'effectivement, on nous appelle à travailler de mieux en mieux. En fait, c'est pas en hébreu, mais c'est en grec. Pardonnez-moi, j'ai parlé du psaume 1 tout à l'heure, donc c'est pour ça. Dans la version grecque, on sous-entend la notion de travail. Mais en fait, ici, c'est qu'on prend pour acquis que tout serviteur travaille. C'est comme si dans la pensée de Paul et dans la pensée des lecteurs de Paul de l'époque du premier siècle, on va se dire, ben, c'est juste normal qu'on travaille. Alors, on n'est pas obligé de rappeler comme quoi on est supposé travailler. Malheureusement, rendu deux millénaires plus tard, en 2020, on est obligé de rappeler effectivement que nous sommes des serviteurs. Pourquoi? Parce que comme je le répète régulièrement, il y a certaines personnes qui viennent à la foi et on dirait que lorsqu'ils arrivent près de Jésus, ben, ils pensent qu'ils rentrent dans un club de vacances, qu'ils rentrent comme au camping où on vient se reposer. Non, la proximité de Jésus, la proximité avec notre Seigneur devrait susciter chez nous une compréhension réelle comme quoi nous sommes des serviteurs. Et un serviteur, pour être un véritable serviteur, il se doit de servir. Donc, Paul ici va prendre pour acquis que l'Église de Corinthe comprend que chacun d'entre nous sommes appelés à travailler. Donc, c'est le premier point qu'on devrait voir. Périsseo veut dire dépasser la mesure, en fait. Veut dire exceller, excéder, surabonder, déborder la norme. Toute cette notion ici est en train de nous pousser dans un travail qui tend à l'excellence. Un service qui est toujours de mieux en mieux pour le Seigneur. Et on va s'arrêter sur ce terme périsseo pour quatre ou cinq interprétations ou quatre ou cinq facteurs qui sont liés à ce terme-là. Premièrement, si on est supposé travailler de mieux en mieux, parce que la section importante de cette expression, c'est de mieux en mieux. Donc, si je vais de mieux en mieux, si je travaille de mieux en mieux, c'est donc que j'ai refusé le statu quo. J'ai refusé que dans mon travail, je connaisse une stagnation. Le travail pour le Seigneur, le pasteur Sergio a eu l'occasion de le mentionner hier soir encore, le travail pour le Seigneur est supposé être de progrès en progrès, de gloire en gloire. Et pour nous, ça devrait être un fait acquis, là aussi. Comme quoi, si je travaille pour le Seigneur, je ne peux pas lui rendre, ou je ne devrais pas lui rendre, une même gamme de travail, un même résultat ad vitam aeternam. Je devrais plutôt prôner une progression constante. Donc, je refuse le statu quo. Lorsque je vais de mieux en mieux, lorsque je vise à aller de mieux en mieux, lorsque je vise à travailler de mieux en mieux, je vise donc à refuser le statu quo. La deuxième chose que je refuse, c'est que aller de mieux en mieux, si ça veut dire ne pas rester stable ou ne pas rester stagnant ou ne pas rester au même niveau, ça veut aussi dire refuser la régression. Donc, je peux pas me mettre à travailler pour le Seigneur en lui rendant un certain niveau de qualité, une certaine quantité de travail et par la suite lui dire, ben, je t'ai assez donné, maintenant je vais donner un peu moins. Lorsqu'on parle de travailler de mieux en mieux, on dit non seulement je ne vais pas rester au même niveau, mais pire encore, je ne vais pas régresser, je ne vais pas diminuer ma charge de travail, je ne vais pas diminuer mon effort, je ne vais pas diminuer mes résultats, mais je chercherai toujours à lui en donner davantage. Donc ça, c'était le deuxième point pour Périsseo. L'autre point, c'est que Périsseo, si on va de mieux en mieux, c'est qu'on fait un constat de là où on est arrivé et on décide d'aller au-delà de cela. C'est comme si je regarde le point où je suis arrivé aujourd'hui en fin de journée et je me fixe comme objectif pour demain d'aller un peu plus loin, aller de mieux en mieux veut donc dire que on est capable de faire une analyse systématique, une analyse réfléchie de notre travail pour faire en sorte qu'on va mieux, pour faire en sorte qu'on travaille mieux, pour faire en sorte qu'on obtient plus de résultats. Et ceux qui ont entendu la prédication ou l'enseignement du pasteur Sergio hier, vous voyez qu'on est vraiment en parallèle dans notre enseignement de ce matin. Donc, on refuse le statu quo, on refuse la régression, et de surcroît à ça, on s'engage, après réflexion, à aller au-delà des acquis d'hier, au-delà des performances d'hier, au-delà des points atteints hier, on dépasse ces acquis. Si je vais vraiment de mieux en mieux et si je vais vraiment avec l'esprit du Périsseo, je vais aussi viser constamment l'amélioration. Je vais voir comment je peux obtenir un résultat encore meilleur, comment je peux travailler de façon plus efficace. La Bible nous dit de racheter le temps. Qu'est-ce que ça veut dire racheter le temps? Racheter le temps, ça veut dire que je comprends que le temps qui m'est imparti est toujours de plus en plus court et je profite toujours davantage de ce temps. Je travaille de façon plus efficace, de façon plus réfléchie, afin d'obtenir un plus grand amalgame ou un plus grand amas de fruits pour être capable de moissonner de façon plus étendue, pour avoir des résultats plus probants pour le Seigneur. Donc, je vise constamment l'amélioration. Je ne peux pas aller de mieux en mieux juste par hasard. Je ne peux pas aller de mieux en mieux juste par bénédiction, là. Le travail s'améliore, les résultats s'améliorent lorsque moi je décide qu'effectivement je veux davantage, j'en veux plus, je veux plus de résultats pour le Seigneur. Ce sera un travail, ce sera du temps, ce sera des efforts, ce sera une qualité d'ouvrage qui sera plus grande que je devrais mettre de l'avant pour avoir effectivement cette constante amélioration. Périsseo veut aussi dire que je, et ça on l'a vu dans la définition tout à l'heure, ça veut dire dépasser la mesure, dépasser la norme. Ça veut dire je ne me contente pas de ce que je vois tout autour de moi. Je cherche à faire encore davantage. Je ne me contente pas de ma propre norme. Je ne me contente pas de ce que les gens pensent que qui est normal pour moi ou qui est adéquat pour moi. Je ne me contente pas même de la norme que j'appose sur moi-même en disant « voici, je pense que ça c'est raisonnable, je vise tout le temps davantage ». Et voilà un endroit où souvent on lutte, où souvent on a un échec, je pense quant à la pensée même du Périsseo. Régulièrement, on veut se contenter en se disant « ben j'ai fait assez d'efforts ». Mais quand on pense à qui est Jésus, quand on pense pour qui on travaille, quand on est vraiment emballé par l'œuvre de Dieu, on va pousser encore davantage. S'il me reste encore 6 onces de force à l'intérieur de moi, ben je vais utiliser ces 6 onces-là. S'il me reste encore un peu d'énergie, je vais encore utiliser cette énergie pour être sûr que quand je vais me coucher ce soir, je vais me demander est-ce que j'aurais pu faire davantage. Et bien sûr, il va m'arriver des idées, il va m'arriver une inspiration de la part du Seigneur pour être plus efficace d'un moyen ou d'un autre, pour appliquer de meilleures techniques, pour me préparer plus adéquatement. Pensons simplement à ces études qu'on fait actuellement. Je parlais hier avec un collègue pasteur et je lui disais, j'ai tout le temps mon nez dans mes lexiques actuellement, lexique grec et lexique hébraïque, pour préparer mes études, mais je suis béni parce que plus je travaille, plus les choses viennent facilement et plus l'inspiration vient. En fait, plus on s'approche de Jésus, plus son inspiration nous vient. Alors, quand je me prépare face à un texte, face à un enseignement à apporter, mais l'inspiration de Dieu, parce que je travaille davantage, cette inspiration coule aussi davantage à travers moi. Donc, on dépasse les normes qui étaient les miennes il y a 3 mois, 4 mois. ne doivent pas être les mêmes aujourd'hui parce que je travaille un peu plus sagement, un peu plus de façon un peu plus planifiée, de façon un peu plus établie. Donc les techniques de travail s'améliorent, l'onction qui découle de ma présence, de ma proximité avec le Seigneur abonde aussi, ce qui fait que je peux dépasser la norme. Et ça, c'est important pour nous. Nous devons dépasser nos normes. On ne doit pas se contenter de ce qui serait logique, de ce qui serait normal. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la normalité. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la logique. Notre Dieu dépasse cette logique. Et notre apport envers notre Dieu devrait dépasser aussi la norme. On ne devrait pas l'aimer juste normalement. On ne devrait pas le servir juste normalement. On ne devrait pas avoir envie de travailler pour lui juste normalement. Mais ça devrait nous emballer. Ça devrait susciter chez nous un plus grand effort. Ça devrait susciter chez nous un plus grand entrain. Ça devrait susciter chez nous un plus grand et un plus vif désir de travailler encore. Alors, qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant sur Périsseo? On a vu que Périsseo, de mieux en mieux, va faire en sorte que je vais refuser le statu quo, va faire en sorte que je vais refuser une régression, un retour en arrière, va faire en sorte que je vais chercher à dépasser les acquis d'hier, les points où je suis arrivé hier, je vais tâcher de les dépasser, je vais aller plus loin encore. Je vais viser constamment à m'améliorer dans ma préparation, dans ma communion avec Dieu, dans ma compréhension de la parole de Dieu, dans mon écoute de sa voix, dans ma perception de son esprit. Je vais essayer de m'améliorer constamment. Et de surcroît à ça, ce que je vais lui rendre, ce que je vais lui amener, je vais aussi veiller à ce que ça dépasse, la norme de ce que les gens pensent qui devrait être logique, la norme de ce que moi je pense qui devrait être logique, la norme de ce que je suis habitué de faire. Je vais faire davantage parce que mon Dieu est qui il est et il mérite mon meilleur, mon 100%. Maintenant, on rentre dans deux autres termes. L'œuvre du Seigneur. Œuvre, c'est le terme ergon. Ergon, duquel on a tiré ergonomie, qui veut simplement dire le travail. Ergonomie, très souvent, c'est l'espace de travail, comment les choses sont disposées pour qu'on travaille de façon plus efficace. Ergon veut dire travail, veut dire les affaires d'une chose, d'une personne plutôt, l'occupation, les accomplissements d'une personne, un emploi et une tâche. Et bien sûr, l'œuvre du Seigneur, Seigneur, un terme usuel pour nous étudiants de la parole de Dieu, le terme kyrios, qui veut dire le maître, le propriétaire, celui qui possède une chose, le souverain, donc celui qui règne sur une chose, et le chef d'une chose. Donc ici, on est en train de dire, nous travaillons, nous erguons, nous sommes occupés, nous sommes à l'emploi, nous faisons une tâche, pour le maître, pour le propriétaire, pour celui à qui appartient l'œuvre, pour celui qui est le souverain parmi les souverains et pour celui qui est le chef sur ma vie. Donc, logiquement, si je travaille effectivement comme pour un souverain, ben je devrais au minimum travailler pour Dieu comme je travaille à un emploi. On a des règles dans un emploi, et si on ne travaille pas selon les règles de notre emploi, ben soit on va être mis à la porte, soit on va nous réprimander, soit même dans certains cas, on va baisser notre salaire. On dit que l'ouvrier mérite son salaire, mais on dit aussi que nous ne sommes pas couronnés si l'athlète n'a pas combattu selon les règles. Donc, notre salaire spirituel, notre bénédiction spirituelle dépend aussi du travail et du comment nous travaillons pour Dieu. Il y a trop de personnes qui disent « Ah, mais le Seigneur est bon, il m'a sauvé, c'est génial, et il m'aime. » Et ils se permettent de travailler pour le Seigneur un peu n'importe comment. Il y a quelque temps, je parlais à quelqu'un et qui était dans une situation de faute, et je lui disais, mais regarde, Tu ne peux pas servir à l'autel avec des mains qui sont sales. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu et travailler pour lui avec des mains qui n'ont pas été purifiées. Et il y a trop de personnes qui pensent « Jésus est bon, Jésus m'aime ». Mais Jésus est le même Dieu dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament et le même Dieu dans l'Apocalypse. Et le même Dieu qui exige de chacun d'entre nous sanctification, sainteté, et qui veut que lorsque nous nous approchons de sa table, nous le servions avec une bouche qui a été purifiée, avec des mains qui ont été sanctifiées, avec des pensées qui ont été nettoyées. Je ne peux pas me présenter au service de Dieu de n'importe quelle manière. Et ça, c'est un défaut que plusieurs chrétiens, notamment dans le dernier siècle, ont développé. Il y avait cette pensée autrefois qu'on a peut-être poussé à un extrême qu'on a appelé le puritanisme. Donc les gens étaient tombés plus dans une espèce de légalisme, dans une espèce de pharisanisme spirituel qui faisait qu'on était très concentré sur les actions et sur l'apparence extérieure. Et on a tellement délaissé cela qu'on est tombé dans une espèce d'évangile laxiste où on peut se présenter devant Dieu n'importe comment. Notre Dieu est encore un Dieu dévorant, un feu dévorant. Notre Dieu châtie encore le péché. Notre Dieu repousse et déteste encore ce qui est impur, ce qui est abominable devant lui. Ce qu'il a déclaré péché au début est encore péché aujourd'hui et sera encore péché pour l'éternité. Donc pour nous, lorsque nous nous approchons du Seigneur, nous devrions au minimum le servir comme on servirait un maître ici-bas sur terre. Et je vous dis juste le fin fond de ma pensée. Servir Dieu comme on sert un patron ici-bas sur terre, c'est moche. J'ai l'impression que c'est moche. J'ai l'impression que je ne peux pas regarder Dieu et puis dire, « Seigneur, je te sers comme j'aurais servi un patron ici-bas sur terre. T'es tellement mieux qu'un patron ici-bas sur terre. Tu es tellement plus méritant qu'un patron sur terre. À toi appartient tout ce que j'ai, tout ce que je fais, c'est à cause de toi. C'est toi qui me donnes la grâce de le faire. C'est toi qui me donnes la force de le faire. » Et moi, j'arriverai devant le Seigneur en lui disant, ben, reçois ce que tu reçois comme si tu étais un patron sur cette terre. Je crois que c'est moche. Mais si on devait avoir un baromètre, essayons au moins de ne pas donner à Dieu moins que ce qu'on donnerait à un patron. Et c'est là où souvent je dis, mais notre éthique de travail dans notre emploi de tous les jours, comment se fait-il qu'on soit à l'heure au travail de tous les jours, puis qu'on se permette, lorsqu'on pouvait se rassembler tous ensemble, qu'on se permettait d'être en retard dimanche matin à l'assemblée. Quand je comprends qui je vais voir, quand je comprends l'importance de la communion des frères et des sœurs, lorsque je comprends combien est importante l'assemblée des saints aux yeux de Dieu, est-ce que je peux vraiment venir le voir en disant « Ah Seigneur, j'arrive avec 15 minutes de retard. Seigneur, j'arrive avec une demi-heure de retard. » Est-ce que je peux servir Dieu en disant, « Regarde Seigneur, je te sers, mais contente-toi de ce que je te donne aujourd'hui. » C'est pas logique comme raisonnement lorsqu'on le verbalise comme on le fait actuellement. Et pourtant, dans notre vie de tous les jours, régulièrement, on demande au Seigneur tout simplement, ou on force le Seigneur à se contenter de notre horaire. On lui dit, ben Seigneur, regarde, j'étais fatigué, j'ai dormi une demi-heure de plus, fait que j'arrive en retard. Je ne serais pas arrivé en retard au boulot, parce que si j'arrive trop souvent en retard au boulot, on va finir par me sanctionner, ou on va finir par me mettre à la porte, on va dresser un dossier contre moi. Mais je permets à Dieu de voir son serviteur arriver dimanche après dimanche en retard. Logiquement, je ne devrais pas servir Dieu de façon moindre que je sers un patron ici-bas sur terre. On est en train de se préparer au déconfinement, on est en train de préparer l'Église dans cette année à ce qui vient après. Et une des choses, c'est qu'on doit travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Donc je travaille pour lui comme je le fais dans un emploi, je travaille pour lui comme je le ferai au minimum comme un employeur d'ici-bas sur terre. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un terme qui n'existe pas en français, mais qui est dans la version grecque. C'est le terme « pantoté ». « Pantoté », en fait, arrive au tout début de cette phrase. « Pantoté » arriverait dans... ça serait genre « pantoté perisseo ergon kyrios. Donc, pantoter de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et le pantoter veut dire quoi? Pantoter veut dire toujours. Donc, toujours de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. C'était ça la pensée de Paul. Il n'a pas mentionné travailler parce que pour lui, travailler était un acquis, était une norme chez tous les croyants. Mais ce qu'il va ajouter et qu'on a perdu en français, c'est travailler toujours. Travailler toujours de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Pantoter veut donc dire constamment. Ça veut dire une constance. Ça veut dire une stabilité. Ça veut dire que je suis pas là à un moment, puis après ça, je n'y suis plus. Je ne donne pas 2 semaines, puis après ça, je prends 2 semaines de relâche. Paul est en train de dire, travailler toujours de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Il y a une constance qu'on doit développer dans notre service. Il y a trop de gens qui travaillent par à-coup. C'est comme, oui, Seigneur, dans mes 2 semaines de vacances, cet été, tu m'auras. Mais le restant de l'année, ben les 50 autres semaines de l'année, ben on se demande où la personne est passée quant à son service. Oh oui, Seigneur, je te donne au moins ces 2 semaines de vacances. Et on s'entend la plupart du temps quand les gens sont en vacances, ils oublient aussi le Seigneur. Ils vont en vacances et puis ils oublient de lire leur Bible, ou ils vont en vacances, ils oublient de se réunir avec leurs frères et leurs sœurs. Ils ont plus de temps, plus de liberté pour le faire, mais ils le font un peu moins. C'est parce qu'ils pensent davantage à eux pendant cette période de vacances. Et je dis pas qu'on n'est pas supposé avoir de sabbat. Le sabbat a été créé par Dieu, le sabbat doit être utilisé. Après ça, chacun comprend comment le sabbat doit être utilisé dans sa propre vie, selon ce que Dieu met dans votre compréhension. Toutefois, ce qui est clair pour Paul, c'est qu'on est supposé travailler toujours. Donc Paul ne voulait pas avoir autour de lui, ou Paul considérait que l'œuvre de Dieu ne méritait pas d'être tout simplement servie par à coup. Mais il y avait une stabilité et une constance qui devait y avoir dans ce travailleur. Et de surcroît à ça, non seulement ça veut dire constamment, mais pantoter veut dire toujours. Ça veut dire une pérennité dans l'œuvre. Ça veut dire un engagement. Quand il disait travailler de mieux en mieux, travailler toujours de mieux en mieux, il disait chacun d'entre nous, on doit s'engager à effectivement travailler toujours de mieux en mieux. Je ne pourrais pas être stable dans mon travail. Je ne pourrais pas être constant dans mon travail. Je ne pourrais pas connaître de pérennité dans l'effort que je fournis, à moins que je décide d'être effectivement constant, stable et d'avoir une pérennité dans mon œuvre. Et ça, personne d'autre que toi ne peut le décider. Mais en même temps, personne d'autre que toi peut l'abandonner non plus. En fait, c'est ta responsabilité. Le travail doit se faire. Le travail va se faire. Avec ou malgré toi. Le Seigneur tient à ce que son œuvre progresse. Mais un jour, tu auras des comptes à rendre à Dieu sur comment tu as servi, avec quelle attitude tu as servi, avec quel effort tu as servi, quelle ténacité tu as démontré, quel entrain t'habitait lorsque tu travaillais, est-ce que tu étais heureux de travailler pour Dieu, est-ce que tu lui donnais le meilleur de toi, et tu sais comme moi que personne ne peut jouer la comédie devant le Seigneur et que personne ne peut lui faire croire quelque chose. Il sait exactement la qualité de ton travail, il sait effectivement l'effort que tu fournis, il sait effectivement si tu t'épargnes ou si tu te donnes entièrement. Il sait effectivement si tu es là simplement par à-coup ou si tu as une stabilité. Et l'œuvre de Dieu mérite, et l'œuvre de Dieu a besoin de ton meilleur et de ton meilleur toujours. Et ça, c'est tant pour quelqu'un qui travaille, on va dire entre guillemets, à temps plein pour Dieu comme un pasteur pourrait le faire, tout comme celui qui travaille à temps partiel entre guillemets pour Dieu. Avant que tu ne sois boucher, tu es chrétien au service de Dieu. Avant que tu ne sois facteur, tu es chrétien au service de Dieu. Avant que tu ne sois mécanicien, tu es chrétien au service de Dieu. Avant que tu ne sois infirmière, tu es chrétienne au service de Dieu. Avant que tu ne sois réceptionniste dans un bureau, tu es chrétienne au service de Dieu. Avant que tu ne sois une employée de banque, tu es d'abord chrétienne au service de Dieu. Et cela doit primer. Et ton service à Dieu doit être de qualité. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu qu'on devait refuser un statu quo quant à notre travail. On doit refuser de régresser quant à la qualité et à l'effort fourni. On doit aussi pousser pour aller au-delà des acquis du passé, des acquis même d'hier. On doit constamment viser l'amélioration. On doit travailler au-delà des normes qui nous sont dictées par notre environnement ou par notre propre pensée ou par notre logique. Viser à dépasser la norme quant à l'effort et à la qualité et au travail rendu. On travaille pour Dieu au minimum, comme on travaillerait pour un employeur. On travaille pour Dieu au minimum, comme je le fais pour mon emploi séculier. Et enfin, je travaille toujours, pantoté, constamment, avec stabilité, avec constance à l'œuvre de Dieu. Je travaille toujours avec engagement, avec pérennité à l'œuvre de Dieu. Alors, c'était la pensée que nous avions pour ce matin. On va prier et après ça, on salue les gens qui se sont joints à nous et on prend aussi le temps juste pour une dernière annonce. Donc, Seigneur, merci pour ce rappel à l'ordre. Merci, Seigneur, pour cet éclaircissement sur le travail qui t'est dû, sur l'effort et l'œuvre à laquelle tu nous appelles à nous impliquer. Et nous savons, Seigneur, que il n'y a personne comme toi. Tu es seul et tu es unique et notre travail à ton égard devrait refléter tout l'amour, toute l'affection, tous les sentiments que nous avons à ton égard. Nous ne devrions pas, Seigneur, te donner un résultat vaille que vaille. Nous ne devrions pas, Seigneur, te donner moindrement que tous nos efforts et toute la qualité et toute notre attention. Seigneur, tu vois quel a été notre travail jusqu'à présent. Nous voulons nous améliorer. Merci, Seigneur, de nous donner l'occasion de te servir et de te servir encore davantage et encore mieux et de te servir toujours. Alors, bénis ma sœur alors qu'elle s'apprête à travailler pour toi. Bénis mon frère alors qu'il démarre son travail pour toi. Parle-leur, instruis-les, garde-les et, Seigneur, bénis l'œuvre que tu as placée entre leurs mains. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, juste vous rappeler, il vous reste 24 heures pour vous inscrire pour l'assemblée de dimanche, dimanche le 26 juillet. Donc, on vous demande vraiment d'appeler. On vous rappelle que bientôt, les règles pour qui vient ou qui a accès au bâtiment vont changer. Jusqu'à présent, on a favorisé trois groupes qu'on pensait être les gens qui avaient peut-être le plus souffert du confinement. Donc, les gens de seuls de 55 ans et plus, les gens en couple dont un seul fréquente l'église de 55 ans et plus, et finalement, les couples de l'église de 65 ans et plus. On a voulu honorer ces personnes, les prendre en main un peu plus pendant cette première phase de déconfinement, mais cela va bientôt changer. Donc, ces personnes qui avaient accès dans cette première phase n'auront peut-être pas accès dans une deuxième phase. Donc, on vous invite vraiment, ne tardez pas, appelez parce que le temps de changement va bientôt arriver. Donc, vous appelez, si vous faites partie d'un de ces trois groupes, vous appelez au 273-8295, 273-8295, dans le 514, et vous laissez votre nom, votre numéro de téléphone, et vous dites « Je veux » ou « Nous voulons nous inscrire pour l'assemblée du dimanche 26 juillet ». Quels sont nos autres rendez-vous? Donc, demain matin, notre dernière bénédiction matinale pour la semaine, et demain soir, notre temps de prière et d'intercession. Alors, qui allons-nous saluer ce matin? On vous rappelle que c'est l'anniversaire de la sœur Rachel aujourd'hui, qu'il y a deux jours, c'était l'anniversaire de la sœur Chantal. On n'a pas pu lui souhaiter un joyeux anniversaire, donc on en profite avec un peu de retard pour saluer non seulement Rachel, mais saluer aussi la sœur Chantal Blain. Donc, ne manquez pas de leur souhaiter un joyeux anniversaire. Donc, on a Keren qui nous a rejoint ce matin. Sois béni, Keren. On a le frère Ramon. On a Didier, on a Vitar, on a la sœur Nina et le frère Rigoberto qui nous regardent depuis le Chili, bien au sud. Que Dieu vous bénisse et vous protège dans la situation actuelle là-bas. On a Denise de Montagne, que Dieu vous bénisse, ma sœur. On a Jimmy, Dieu te bénisse. On a Isaac, sois béni. On a Maggie, Donoso, Dieu la bendiga. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Alors à vous tous qui étiez présents ce matin, soyez bénis. On se retrouve donc demain matin pour notre dernière bénédiction matinale. Pour ceux qui doivent s'inscrire pour l'assemblée de dimanche, vous le faites. Il vous reste 24 heures tout simplement. Et puis après ça, on se retrouve donc demain matin pour notre dernière bénédiction de la journée, de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire encore une fois à Rachel et à Chantal. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous accorde sa grâce. Alors à demain tout le monde, au revoir.